de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Kim Jong-un et le ministre russe de la Défense discutent du renforcement de la coopération militaire. Conseiller américain à la sécurité nationale rencontre le ministre chinois des Affaires étrangères. OMS exhorte la Chine à fournir un accès complet pour déterminer les origines de COVID. C'est à Expo et la preuve de l'interaction des acteurs économiques asiens et Chine. Programme indonésien FOLU, NetSync est mis en œuvre au niveau du village. Bawaslu invite les jeunes électeurs à vérifier les antécédents des participants aux élections de 2024. Et 6 avions de l'armée de l'air indonésienne participent à la formation au Sindo 2023. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a rencontré le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu à Vladivostok pour discuter des questions pratiques liées à l'augmentation de la coopération militaire. C'est ce qu'a rapporté dimanche le média d'État nord-coréen KCNA. Shoigu a organisé un déjeuner pour accueillir Kim, qui a visité un navire de guerre de la flotte russe du Pacifique en extrême-orient du pays, samedi 16 septembre. Kim est en Russie à l'invitation de président Vladimir Poutine. Kim et Shoigu ont échangé des idées sur des questions pratiques afin de renforcer la coordination stratégique et tactique, la coopération et les échanges entre les forces armées des deux pays. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jack Sullivan, a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, à Malte le week-end dernier. Selon Reuters, la rencontre de Sullivan avec Wang était la dernière d'une série de discussions de haut niveau entre des responsables américains et chinois qui pourraient jeter les bases d'une rencontre entre le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping plus tard cette année. Sullivan a rencontré Wang pour la dernière fois à Vienne en mai. La secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo, le secrétaire d'État Antony Blinken et la secrétaire du Trésor Janet Yellen se sont rendus en Chine cette année pour assurer la continuité des communications entre les deux pays dans un contexte de tensions qui ont éclaté après que l'armée américaine a abattu un ballon de surveillance chinois au-dessus des États-Unis. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exhorté Pékin à fournir davantage d'informations sur les origines de COVID-19. Le Financial Times a rapporté dimanche que l'OMS était prête à envoyer une deuxième équipe pour enquêter sur ce problème. Les commentaires du secrétaire général de l'OMS interviennent alors que les autorités sanitaires et les sociétés pharmaceutiques du monde entier s'efforcent de mettre à jour les vaccins pour lutter contre les nouvelles variantes émergentes du coronavirus. Ghebreyesus presse depuis longtemps la Chine de partager ses informations sur les origines de COVID-19, affirmant que jusqu'à ce que cela se produise, toutes les hypothèses restent sans réponse. Ce virus a été identifié pour la première fois dans la ville de Wuhan en Chine en décembre 2019. Beaucoup soupçonnent que ce virus s'est propagé sur les marchés d'animaux vivants avant de se propager dans le monde entier et de tuer près de 7 millions de personnes. Le vice-président indonésien Maruf Amin a qualifié l'Expo Chine-ASEAN, c'est à Expo, de preuve de l'interaction étroite entre les hommes d'affaires de Chine et des pays membres de l'ASEAN, dont l'Indonésie. Vice-président à Nanning, Huangqi, Chine, dimanche 17 septembre. Cela dit, c'est dans un souci de relations étroites que l'Indonésie est présentée à CA Expo 2023 sous la forme d'un pavillon des matières premières. L'Indonésie expose divers produits de qualité supérieure tels que de la nourriture, des boissons et de la mode, ainsi que le pavillon ville des charmes représenté par la province centrale du Kalimantan. Le vice-président Maruf Amin a assisté à l'ouverture de la 20e exposition Chine-ASEAN, CA Expo, et du 20e sommet sur l'investissement commercial Chine-ASEAN, CABIS, à Osmandus Hall, centre international de congrès et d'exposition de Nanning, NICEC, région autonome du Huangqi, Chine, ayant pour thème travailler ensemble pour un foyer harmonieux et un avenir partagé. Cette exposition se tiendra de manière hybride, à savoir hors ligne, du 16 au 19 septembre 2023. Cette exposition en ligne se tiendra jusqu'en septembre 2024 via la plateforme CA Expo. Le programme indonésien FOLU Netsing 2030 a été mis en œuvre au niveau des villages et des villages, ainsi que dans les zones gérées par la société. Le directeur général de la planification forestière et de la gestion environnementale du ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, Hanif Faisal Nurofik, dans sa déclaration à Jakarta dimanche, a expliqué que le FOLU Netsing 2030 de l'Indonésie est l'une des actions indonésiennes visant à contrôler les catastrophes liées au changement climatique. Grâce à ce programme, l'Indonésie souhaite atteindre l'objectif d'absorber les émissions de GES de moins 140 millions de tonnes d'équivalent CO2 en 2030. La politique au niveau du village est le programme Village Climatique, dans lequel les communiqués du village, du sous-district et du village prennent des actions concrètes pour contrôler le changement climatique, comme la réhabilitation des terres, l'agriculture urbaine et le développement d'une économie circulaire. Le président de l'Agence de surveillance des élections générales de la République d'Indonésie, Bawaslu, Rahmat Bagja, a invité les jeunes électeurs à vérifier les antécédents des hommes politiques se présentant comme membres de l'Assemblée législative ou comme candidat à la présidentielle et à la vice-présidence aux élections de 2024. Rahmat Bagja a expliqué que les électeurs doivent trouver les profils des candidats aux représentants du peuple et des dirigeants potentiels pour les 5 prochaines années, ainsi que leur vision et leur mission, ainsi que leur programme de travail. Il a transmis cela après avoir participé à la marche de santé de la Radio République Indonésia, RRI Smart Voting Movement, GSM, au bureau de RRI Jakarta dimanche. Bagja a également invité les électeurs, y compris les jeunes électeurs de la génération Y et de la génération Z, à vérifier leur nom sur le site officiel de la Commission des élections générales de la République d'Indonésie, KPU. 6 avions F-16 Fighting Falcon de l'armée de l'air indonésienne, de l'escadron aérien 3, le Dragon, et de l'escadron aérien 14, le Tigre, de la base aérienne Iswahyudi Madiun, sont arrivés dimanche à la base aérienne Samratulangi de Manado pour participer à l'exercice de manœuvres aériennes AMX lors de l'exercice conjoint Lang Ausindo, LATMA 2023. Le groupe dirigé par le lieutenant-colonel d'aviation Pandu Eka Prayoga a été accueilli par Danlanut Samratulangi, jeune maréchal de l'armée nationale indonésienne, Muhammad Mujib, et des représentants de l'Air Australian Force, RAAF. L'exercice conjoint avec l'armée de l'air australienne s'est déroulé du 18 au 28 septembre. Pandu Eka Prayoga a déclaré que LATMA et Lang Ausindo 2023 devrait être une étape importante dans le maintien de la stabilité régionale et de la paix dans la région Asie-Pacifique. Bon, chers joueurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Ces éditeurs bonsoir, voici le commentaire ayant pour le titre « Enjeux stratégiques des chaînes d'approvisionnement régional et international à l'ère de la mondialisation ». Singapour coopère avec la Malaisie et l'Indonésie pour construire une base de chaînes d'approvisionnement régional solide afin de tirer parti de l'évolution des flux de fabrication mondiaux, profitant de l'augmentation des investissements en provenance d'Inde, de Chine et d'Asie du Sud-Est ces dernières années. Singapour renforce sa coopération avec ses pays voisins, entre autres en construisant une base industrielle qui couvre Singapour, l'état de Johor au sud de la Malaisie et les îles Riau en Indonésie, géographiquement proches. Jacqueline Po, directrice exécutive du Conseil de développement économique de Singapour, l'a déclaré lors de l'atelier de groupe de la Bourse de Londres et des journalistes Reuters jeudi 14 septembre 2023. Po a déclaré que Singapour augmente les efforts dans les chaînes d'approvisionnement régional afin qu'avec la Malaisie et l'Indonésie, elle puisse devenir une base de production plus solide en Asie du Sud-Est. Pendant ce temps, lors du sommet du G20 en Inde la semaine dernière, l'Inde, les États-Unis, les pays du Golfe et les pays européens ont annoncé l'établissement de nouvelles routes commerciales. L'Inde, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Union européenne, les États-Unis ont signé une lettre d'intention visant à établir le corridor économique Inde, Moyen-Orient, Europe, IMEC. L'objectif de la création de l'IMEC est d'accroître les relations et les contacts commerciaux entre le continent européen et l'Inde, dans l'espoir d'accroître le développement économique de l'Europe, de l'Asie et des pays du Golfe. À cet égard, le Golfe arabique fonctionnera comme un nœud commun. Ce plan comprend entre autres la construction d'une ligne ferroviaire transfrontalière en complément des routes maritimes et des liaisons terrestres existantes. Ce corridor vise à améliorer et à soutenir le transport de biens et de services depuis, vers et à travers l'Inde, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, Israël et l'Europe. L'exécution de ce plan nécessitera certainement des investissements fantastiques. Dans un communiqué, l'Inde, en tant que présidente du G20 en 2023, a évoqué l'implication de la Banque mondiale. D'autre part, l'Union européenne, les États-Unis et l'Indonésie ont lancé le partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux lors du sommet du G20 à Bali les 15 et 16 novembre 2022. Ceci est conforme au programme Global Gateway de l'Union européenne. Pour ce programme, l'Union européenne a budgétisé 300 milliards d'euros jusqu'en 2027 pour financer environ 88 projets répartis à travers le monde. Pour l'Indonésie, la chaîne d'approvisionnement international est l'une des questions cruciales à l'ère actuelle de mondialisation. Ceci est important afin de garantir le bon développement des exportations et des importations et de réduire les éléments de coût. De cette manière, les coûts de main-d'œuvre et d'exploitation seront bien inférieurs, notamment pour la production de biens. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir. La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Arial 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the
world. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui. Avec moi Audrey. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec le 18 septembre, commémoration de la Journée mondiale du bambou. Chers auditeurs, la Journée mondiale du bambou est célébrée chaque 18 septembre dans le but de sensibiliser à la préservation et à la promotion de la filière bambou. L'avertissement vise également à souligner le potentiel du bambou à protéger les ressources naturelles et l'environnement, et à garantir une utilisation durable du bambou. Le bambou est utilisé à divers fins, notamment en Asie de l'Est et du Sud-Est. La commémoration de la Journée mondiale du bambou reconnaît également l'importance du bambou à l'échelle mondiale. Nous continuons avec l'événement du 18 septembre 1948, rébellion du parti PKI à Madiun. La rébellion de la partie communiste indonésienne PKI de 1948 a également été appelée l'incident de Madiun. Cette rébellion a été menée par le Front démocratique du peuple, FDR, qui comprenait le Parti communiste indonésien, le Parti socialiste indonésien, le Parti travailliste indonésien, la Jeunesse populaire et le Parti central, organisation indonésienne du travail. La rébellion de la partie PKI Madiun était motivée par des problèmes très complexes. Cet événement a commencé avec la chute du cabinet d'Amir Sarifuddin, qui n'a plus reçu de soutien après avoir été accusé d'avoir causé des pertes à l'Indonésie lors de la conclusion de l'accord de Renville avec les Néerlandais. La révolte de Madiun était un mouvement visant à renverser le gouvernement légitime, à savoir la République d'Indonésie, et à changer les fondements du pays en tant qu'État communiste. La rébellion de la partie PKI de Madiun s'est terminée au bout de 3 mois avec une défaite du côté du parti PKI. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le 18 septembre 2007, manifestation des moines bouddhistes contre le gouvernement de la Birmanie de 2007. Les manifestations anti-gouvernementales de 2007 en Birmanie ont commencé le 15 août 2007 et se sont poursuivies. La cause des manifestations était la décision de la junte, l'Assemblée pour la paix et le développement, d'annuler les subventions sur les carburants et d'augmenter les prix des carburants conformément au Conseil de l'Assemblée pour la paix et le développement, Fonds monétaire international, FMI et Banque mondiale jusqu'à 100%. Les étudiants et les militants politiques de l'opposition ont mené la manifestation. La junte a rapidement géré la protestation en arrêtant des dizaines de manifestations. Le 18 septembre, la manifestation était dirigée par des milliers de moines bouddhistes membres de l'Alliance des moines birmans et la manifestation a pu se poursuivre jusqu'à ce que le gouvernement commence à arrêter les manifestants le 26 septembre. Cette manifestation a été appelée la Révolution du safran.
Di sini ku rasakan pengorbanan yang kau jalani, walaupun terasa perih kau bertahan. Ku yakin kau adalah manusia.
Voilà la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre Le ministère de l'Industrie soutient la participation des PMO au Salon international du meuble et de l'artisanat d'Indonésie 2023. Le ministère indonésien de l'Industrie continue d'encourager le développement et l'élargissement de l'accès au marché pour les petites et moyennes industries nationales, parmi lesquelles l'industrie locale du meuble et de l'artisanat. Cet effort a été fait pour faire face à la dynamique économique mondiale actuelle. Citant econ.go.id, 15 septembre, en marge du Salon international du meuble et de l'artisanat en Indonésie, IFINA 2023 à Tangerang, Banten, vendredi 15 septembre, la directrice générale des petites, moyennes et diverses industries du ministère de l'Industrie de la République d'Indonésie, Reni Yanita, a déclaré que l'industrie du meuble avait de grandes opportunités cette année. Selon elle, cela est dû au fait que l'industrie du meuble représente une proportion dominante d'exportation avec des conditions de marché plus certaines. Reni Yanita a expliqué que cela a été démontré par la contribution de l'industrie indonésienne du meuble de 1,3% au produit intérieur brut non pétrolier et gazier. Reni a ajouté que jusqu'en juin, la valeur des exportations d'industrie du meuble avait atteint 799,6 millions de dollars américains. Citant Fortune Business Insight, près de 50% de la valeur du marché mondial du meuble en 2022 provenait du marché de l'Asie-Pacifique. Reni expliquait qu'en 2023, on espère que la valeur du marché mondial du meuble augmentera jusqu'à environ 541 milliards de dollars américains. Conscient de cela, le ministère de l'Industrie souligne la nécessité de stratégies visant à accroître la compétitivité de l'industrie indonésienne du meuble dans le but d'accroître l'accès au marché et de répondre aux tendances existantes. Les opportunités de marché pour l'industrie du meuble tant à l'étranger qu'au niveau national doivent être exploitées au mieux par le gouvernement, les associations et les acteurs de l'industrie eux-mêmes. Reni a déclaré que la tendance à la sensibilisation à l'environnement a incité les acteurs de l'industrie à améliorer la qualité de la production grâce à des processus durables, par exemple avec des matières premières durables et respectueuses de l'environnement, et à mettre en œuvre une économie circulaire. Il a estimé que cette étape pourrait avoir un impact économique important sur la société. L'une des mesures prises par le ministère de l'Industrie a été d'aider des petites et moyennes industries du meuble et de l'artisanat sélectionnées à participer au Salon IFINA 2023, qui a lieu du 14 au 17 septembre 2023. En plus de participer à l'exposition, ces 10 industries bénéficient également d'installations pour développer des concepts de design grâce à la collaboration des designers professionnels avec les acteurs de l'industrie pour créer des conceptions de produits créatifs ainsi qu'une assistance intensive d'experts. Pendant ce temps, le directeur des petites et moyennes industries de l'alimentation, du meuble et des matériaux de construction au ministère de l'Industrie, Yedi Sabariadi, espère que cette exposition pourra présenter les produits des participants de l'industrie indonésienne du meuble aux acheteurs potentiels, gagnant ainsi en marché plus large et augmentant les exportations potentielles. J'espère également que les participants à l'exposition acquériront des connaissances et des informations sur les dernières tendances et goûts du marché. L'exposition IFINA est une exposition internationale du meuble et de l'artisanat organisée depuis 2008, initiée par l'Association indonésienne de l'industrie du meuble et de l'artisanat ASMINDO. IFINA 2023 est la 10e édition. C'est mon Indonésie pour ce soir.
Sirna sekejap ku terbawa, hatiku bersama dia yang bisa berikan segala asa di saat tak ada rasa, dan dia yang bisa kuatkan aku di sini, ku akan
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, la danse Rada Prahayu est une danse de Kalimantan du Sud pour accueillir les invités en signe de respect. Le mouvement de la danse Rada Prahayu commence toujours par un mouvement volant qui représente un ange descendant du ciel et se termine par le même mouvement qui représente un ange retournant au ciel. Les danseuses de Rada Prahayu dansent vêtues de vêtements appelés vêtements layu, qui sont généralement jaunes, et les châles utilisés pour danser semblent représenter la beauté d'un ange. En dehors de cela, la danseuse est également équipée d'un tchipou qui sert de support pour la pigeon et d'un popouri dans la main gauche pour les mouvements rituels. Lors du spectacle, les danseuses sont accompagnées de musique et de chants poétiques. Cette danse était à l'origine une danse pour repousser le mal et demander la sécurité de tous les dangers. En dehors de cela, la danse Kadap Rayu n'était initialement exécutée lors d'événements traditionnels tels que les mariages, les grossesses, les naissances et également les décès. Cependant, au fil du temps, cette danse a également été exécutée comme divertissement public. La danse Kadap Rayu est tirée du mot Kadap ou Beradap Adap qui signifie ensemble ou groupe. Pendant ce temps, Rayu signifie bonheur ou prospérité. Historiquement, cette danse a commencé lorsque Patih Lambung Mangkurat revenait de sa visite au royaume de Majapahit. Lorsqu'il s'apprêtait à entrer dans la rivière Barito, leur navire s'est échoué, le faisant couler et presque s'avirer. Dans cette situation, Patih Lambung Mangkurat a demandé de l'aide au Tout-Puissant afin qu'il puisse être sauvé. Peu de temps après, sept anges sont descendus sur le navire et ont ensuite organisé une cérémonie beradab-adab. Après que le navire ait été sauvé, l'ange est retourné au ciel avec le même mouvement que le mouvement de vol de la danse Kadap Rayu. Jusqu'à présent, la danse Kadap Rayu est encore conservée dans divers studios d'art à Banjarmasin dans le Kalimantan du Sud. Bien sûr, les nombreuses créations sont ajoutées à chaque spectacle pour le rendre intéressant, mais sans pour autant abandonner les standards d'origine. Ces auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir avec comme titre « La danse Kadap Rayu de Kalimantan du Sud ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Padaku kau harus tahu, ku menunggu kau akan.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Menuju Bandung. Je répète, menuju Bandung signifie aller à Bandung. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Berkirim Pesan. Berkirim Pesan signifie s'envoyer des messages. Cette conversation a eu lieu entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et Inda, une amie de sa communauté de vlog dans la ville de Bandung. Chris a déclaré dans son vlog qu'il avait rencontré Inda au travail. Écoutons la conversation.
Perjalanan saya kali ini di Bandung ditemani oleh Inda, kawan lama saya. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkirim pesan.
Halo semuanya, saya Inda.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, berkirim pesan. Berkirim pesan signifie s'envoyer des messages. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez la répéter après moi. Jarang bertemu. Jarang bertemu signifie se voir rarement. Tetapi. Tetapi signifie mais. Selalu. Selalu signifie toujours. Berkiriman. Berkiriman signifie s'envoyer. Pesan. Pesan signifie des messages. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkiriman pesan. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkiriman pesan. Signifie on se voit rarement, mais on s'envoie toujours des messages. Perjalanan. Perjalanan signifie voyage. Kali ini signifie cette fois. Ditemani. Ditemani signifie accompagner. Kawan lama. Kawan lama signifie vieil ami. Dans la conversation, vous entendez kami jarang bertemu, tetapi selalu berkiriman pesan. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkiriman pesan. Signifie on se voit rarement, mais on s'envoie toujours des messages. Dans cette phrase, il y a le mot berkiriman. Je répète, berkiriman signifie s'envoyer. Le mot berkiriman, je répète, berkiriman signifie s'envoyer, c'est-à-dire s'envoyer l'un à l'autre. L'expression berkiriman pesan. Berkiriman pesan signifie s'envoyer des messages. Venez écouter un autre exemple d'utilisation du mot saling. Saling signifie mutuellement. Berpelukan. Berpelukan signifie s'embrasser. Para pemain sepak bola berpelukan setelah laga berakhir. Para pemain sepak bola berpelukan setelah laga berakhir. Signifie les joueurs de football s'embrassent après la fin du match. Bersalaman. Bersalaman signifie se serrer la main. Warga bersalaman pada hari lebaran. Warga bersalaman pada hari lebaran signifie les gens se serrent la main à l'occasion de l'aide. La ville de Bandung est la capitale de la province de Java de l'Ouest, située à environ 140 km au sud-est de Jakarta. Bandung est la troisième plus grande ville après Jakarta et Surabaya en termes de population. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Perjalanan saya kali ini di Bandung ditemani oleh Indah, kawan lama saya. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkirim pesan.
Halo semuanya, saya Indah.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons avec les différents sujets. Au revoir!
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lak Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants seront annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants.
From Indonesia to the world.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson keroncong intitulée Budaya Bangsa, chantée par Ika Kurniawati. Chers auditeurs, cette chanson keroncong de Suradi Santoso raconte l'histoire de la diversité culturelle du peuple indonésien, dont l'une est la musique keroncong, la musique traditionnelle indonésienne. L'auteur souligne également que son œuvre marque sa contribution à la nation et à l'État à travers la belle musique indonésienne keroncong et en même temps une invitation à la préserver. Bon, chers auditeurs, voici Ika Kurniawati va chanter une chanson keroncong intitulée Budaya Bangsa. Bonne écoute.
bagai panggil di Nusa tercinta, Nusa Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.